Chapitre 2. Quand le jeune homme redescendit, un grand feu était allumé sur le foyer de la fruitière. Hercule, debout auprès de la chaudière pleine de lait, surveillait les progrès de l'ébullition. Il salua Marc d'un signe de tête, puis tout à coup, se tournant vers lui, « Voilà votre souper, dit-il, dépêchez-vous pendant qu'il est encore chaud. » Une terrine de soupe fumait sur la planche qui servait de dressoir et, tout à côté, un gros saucisson s'étalait sur un lit de persil et de cresson vert. « C'est pour moi que vous avez fait tous ces préparatifs, » dit Marc surpris. « Vous savez bien pourtant que j'ai déjà soupé. »« Un morceau de pain, ça ne compte pas. Vous nourrissez les autres et vous ne gardez rien pour vous. » « Mais vraiment, fruitier, vous n'auriez pas dû prendre la peine de fricoter. » « Je n'ai pas fricoté, c'est Madame Rosine qui a fait la soupe, et si vous ne la mangez pas tout de suite, je penserai que vous êtes un franc muscadin, tout comme les autres. » Ainsi mis en demeure et sollicité par le fumet appétissant du potage, Marc se mit à l'œuvre de très grand cœur. Il posa la terrine sur ses genoux, comme font les maçons, et plongea la cuillère dans cette soupe de campagne, épaisse et savoureuse. « Est-ce bon ?» demanda Hercule, qui regardait son hôte d'un air satisfait. « Excellent ! Madame Rosine y a mis toutes les herbes de la Saint-Jean. Comme ça vous remonte un homme » exclama-t-il au bout d'un moment. « J'avais décidément l'estomac creux. Mais vous n'attendez pas de moi, fruitier, que je mette à sec cette terrine. Je ne serai plus en état de faire honneur au saucisson. Il a vraiment très bonne mine. Ne voulez-vous pas en prendre une tranche avec moi ?» « Je ne puis pas quitter la chaudière à présent. Mangez de bon appétit sans m'attendre. Si vous avez soif, il y a de l'eau tout près de vous dans la seille. Vous boiriez bien un verre de vin, sans doute, ajouta-t-il, mais je n'en ai pas. » « Si vous permettez, dit Marc avec empressement, en retour de votre bonne hospitalité, je vous enverrai quelques bouteilles de mon cru, car j'ai là-bas une vigne grande comme un mouchoir de poche qui me donne un petit rouge assez supportable. » « Merci, je ne bois jamais de vin, » dit Hercule avec une sorte de brusquerie. « Tiens, vous avez donc fait vœu de tempérance ?» Le jeune fruitier ne répondit rien et Marc acheva son souper en silence. Le crépuscule était maintenant venu et, par la porte entr'ouverte, on voyait la chaîne de la tourne se profiler sur le ciel encore transparent avec les onduleuses sinuosités de sa crête et les découpures aiguës de ses sapins. Un léger brouillard flottait au fond de la vallée et, de tous côtés, résonnait ce bruit de clochette qui est comme la voix de la montagne, harmonie errante et rêveuse dont le vent brise les accords. Marc vint s'asseoir près de la porte pour jouir de la beauté du soir et son œil d'artiste s'arrêta tour à tour sur deux tableaux bien différents. Là-bas, l'imposante sérénité de la nature dans son repos, les grandes lignes fuyantes des montagnes et la cristalline transparence du ciel. Ici, la clarté rouge et voltigeante de la flamme s'élançant dans la haute cheminée, les ombres fugitives qui couraient le long des murailles et le noir opaque du fond sur lequel se détachait en saillie lumineuse la haute stature du jeune fruitier. Sa veste à manches rondes et courtes laissait à découvert ses bras nerveux. Il tenait à deux mains une sorte de rame à l'aide de laquelle il remuait le contenu de la grande chaudière et le mouvement cadencé par lequel il s'inclinait et se redressait tour à tour faisait valoir la souple vigueur de ses membres. Il avait le visage tourné vers le feu et les jets soudains de la flamme illuminaient ses traits mâles et sombres et sa noire chevelure. « Fruitier !» s'écria Marc, pensant que l'heure propice était venue. « Il faut que vous me laissiez faire votre portrait. » Hercule se retourna en élevant au-dessus de la chaudière sa débattoire, toute ruisselante de blanches perles du lait. « Ne bougez pas !» exclama le jeune peintre. « Comme vous êtes là, vous faites un parfait modèle. L'attitude, l'expression, la lumière, tout est excellent. Encore une minute d'immobilité, je vous prie, le temps de tailler mon crayon. » « Demain matin, je préparerai le tableau de chevalet et nous aurons la première séance, aussitôt que vous pourrez me donner une demi-heure. Est-ce entendu ? » Marx exprimait avec tant de vivacité que le fruitier, accoutumé au lent parler des paysans, ne comprit pas la moitié de ce qu'il disait. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ? » fit-il avec une certaine défiance. « Vous n'avez pas saisi ? Eh bien, je vais vous expliquer cela par le menu. Primo, savez-vous, mon cher fruitier, que vous êtes un très beau garçon ?» Hercule fit un geste qui signifiait clairement « Laissez-moi tranquille. »« Un très beau garçon, » répéta Marc avec chaleur, « une tête pleine de style. Fiez-vous à moi pour cela, c'est mon métier de m'y connaître. Maintenant, je vous demande une chose bien simple, c'est de vous tenir immobile pendant 5 minutes pour que je note au crayon votre attitude. Et demain, en avant la palette. Je vois d'ici mon tableau. Un fond opaque, des flamboiements de cuivre, et cette haute stature se dressant au premier plan, ce geste impérieux, ces yeux sombres. La terre de Cassel me manquera pour les glacis du fond, mais j'ai le bitume et toute la gamme des tons roux. Si vous parliez chrétien, on s'entendrait plus vite, fit Hercule avec brusquerie. Pour ce qui est de mon portrait, je vous défends de le faire. Marc eut un soubresaut. Il ouvrait déjà la bouche pour en appeler de cette interdiction quand Hercule l'arrêta d'un geste presque violent. « Taisez-vous. Si vous dites encore un mot de ça, je plante là mon fromage et je vais coucher dans la pâture. » Puis il tourna le dos à son hôte et n'ouvrit plus la bouche. Marc était cruellement désappointé. Il lui fallut un grand moment pour maîtriser son dépit. Ayant allumé une cigarette, il y trouva pourtant quelques consolations et une petite promenade dans la cour, à l'air frais de la nuit, contribua aussi à raffermir sa philosophie. « Ah, polisson de fruitier ! Ah, mauvaise tête de fribourgeois » exclamait-il pour s'épancher. « Au diable les gens mystérieux ! Ils sont comme des cruches qui n'auraient point d'anse, on ne sait par où les prendre. Mais le cas n'est pas désespéré. Mon fruitier ne saurait avoir dit son dernier mot et nous verrons bien qui sera le plus entêté. On n'est pas de Sauvanier pour rien. J'ai la tête carrée, moi aussi. Mais pour commencer, ne boudons pas. Rien n'est plus bête et moins diplomatique. C'est en parlant qu'on s'entend. » Marc Aubert vint donc reprendre sa place sur le seuil d'un air souriant et plein d'espoir. La confection du fromage approchait de son terme. La chaudière avait été retirée du feu grâce à la poutre mobile à laquelle elle était suspendue et qui tournait facilement sur son axe. Le lait, chauffé d'abord à la température de 50 degrés, s'attiédissait peu à peu et, de temps en temps, le fruitier y plongeait son bras pour saisir et émietter entre ses doigts une poignée de la bouillie caséeuse et friable qui se déposait au fond. « Je me demande comment vous allez retirer le fromage, » dit Marc, qui n'avait jamais assisté à cette opération. « Vous allez voir, » répondit Hercule. Il prit une longue pièce de toile à claire-voie très grossière, mais très solide, et se l'attacha autour du cou comme une immense serviette. Puis il en enroula l'extrémité inférieure autour d'un arceau de bois, et saisissant les deux bouts de cet arceau, il plongea ses bras presque jusqu'à l'épaule dans le lait encore chaud, fit passer sa toile comme un filet sous la masse lourde de plus d'un quintal qui s'était agglomérée au fond et, par un vigoureux effort de la nuque et des épaules, il la ramena toute ruisselante en haut. « Bravo !» dit Marc. « Voilà un beau tour de force. Mais êtes-vous sûr qu'il ne reste pas de fromage dans la chaudière ?»« À peine une poignée. Je vais y retourner. » L'arceau plongea une seconde fois, rassemblant tout ce qui pouvait avoir échappé à la première capture, et bientôt la grosse motte blanchâtre s'aplatit entre les disques de bois de la presse, faisant courir dans les rainures de l'évier et ruisseler en 1000 cascades le petit lait dont elle était gonflée. « Faites-vous un fromage chaque jour ?» demanda Marc. « Oui, et souvent deux en été. » « C'est donc un rude métier que le vôtre. » « La besogne ne manque pas. Il faut soigner la cave, saler, frotter toutes les meules, couper le bois, laver les linges et écurer les ustensiles chaque jour. » « Et s'enrichit-on, au moins, en se donnant tant de mal ?»« J'ai 600 francs par an, le logement, le chauffage et la gratification du marchand qui viennent 2 fois par année. »« À ce compte-là, j'aime encore mieux être peintre. » Mais dites-moi, n'avez-vous jamais songé à émigrer en Amérique ? Il paraît que c'est l'Eldorado des fromagers de Gruyère surtout. On les choie, on les révère, on les écoute comme des oracles, on les couronne, on les médaille, on les paie en beaux dollars reluisants. Mais il faut quitter son pays. Et c'est dur, fit le jeune fruitier avec une certaine amertume. Voilà plus de 4 ans que je n'ai pas revu le mien. Vous êtes de la Gruyère ? Oui, y avez-vous été ? C'est un beau pays, n'est-ce pas ? Nos montagnes sont toutes blanches et on y voit des chamois. Il y a dans nos alpages des fleurs qu'on ne trouve pas ici, des roses des Alpes et des cloches bleues que Suzy mettait au bout de ses petits doigts comme des chapeaux. Suzy, interrompit le jeune peintre, qui était-ce ? Hercule ne répondit pas et, à la lueur incertaine du feu, Marc crut voir une vive rougeur monter à ses joues brunies. Maladroit que je suis, pensa-t-il, cette question indiscrète va couper court à tous les épanchements. Je n'aurais pas dû relever ce nom prononcé involontairement. Et, se gardant bien d'insister, il reprit : On aime à chanter en Gruyère, n'est-ce pas ? Pendant un séjour que j'y ai fait, un de mes plus grands plaisirs était d'écouter les armaïs se renvoyer le soir des yodels d'un chalet à l'autre. Vous auriez dû entendre le grand Baptiste, fit vivement Hercule. C'était le maître fromager de chez Liordet. Sa voix était comme une cloche. Le soir, quand tout était tranquille, on l'entendait de l'autre côté de la ravine. Il chantait l'Ave d'abord, puis les trois belles filles de Charmé, et toujours le Rance des Vaches pour finir. Alors, nos hommes se mettaient du concert, et des deux chalets, on se répondait « Lioba, Lioba, Poraria !» Le jeune fruitier avait élevé peu à peu la voix et sans y penser, il avait donné à ces derniers mots l'intonation musicale gravée dans son souvenir. Puis, tout à coup, sans transition, il baissa la tête et couvrit son visage de ses deux mains. Marc le regardait, étonné et ému de cette subite démonstration de douleur. « Si vous regrettez votre pays, pourquoi donc n'y retournez-vous pas ? » dit-il enfin. « Écoutez-moi, fruitier, ce n'est point par curiosité que je parle. Je voudrais vous aider à sortir de peine. Et si un conseil, un coup de main ou ma bourse peut-être vous était utile, je serais heureux de vous les offrir. » Cet accent cordial parut émouvoir Hercule. Il sembla indécis un instant et Marc crut qu'il allait parler. Mais enfin, il secoua la tête en disant avec amertume « Vous n'y pouvez rien. Merci tout de même. » ajouta-t-il d'un ton plus doux. Échec et mat sur toute la ligne, pensa Marc Aubert. Il me refuse son portrait, il me refuse son secret. Eh bien, qui les garde ? Il y perd autant que moi. Je me sentais pour lui le zèle d'un paladin redresseur de tort. J'aurais pris sa cause en main et je l'aurais gagnée. Pauvre garçon, est-il la victime de quelque noir ébrouglio, de quelque machination jésuitique ? Ou bien est-ce un de ces déshérités que le monde repousse, ou un régénéré de quelque maison pénitentiaire ? Peut-être la nuit qui porte conseil m'enverra-t-elle un songe révélateur, continua Marc en tirant sa montre. Voilà bientôt 9h30. Il faut que je songe à mon installation, puisque mon hôte m'en a laissé le soin. Heureusement, j'ai ma couverture de voyage, et cette planche-ci me servira de divan. Ça ne vaut pas un sommier à ressort, mais c'est encore mieux que les dalles. « Et vous, fruitier, où comptez-vous dormir ? » dit le jeune homme en se tournant vers Hercule, qui venait de retirer le céré du petit lait fumant. « Je ne me coucherai pas avant minuit, ne vous inquiétez pas de moi. Pensez-vous pouvoir dormir ? » ajouta-t-il en regardant d'un air dubitatif le lit improvisé sur lequel Marc s'étendait tout habillé, roulé dans sa couverture et la tête appuyée sur son sac en guise d'oreiller. « Parfaitement, je sais dormir partout, en wagon, en bateau, même en diligence, entre des voisins de 2 quintaux chacun, et j'y fais des rêves d'or. Je crois, ma parole, que je dormirai au bout d'un poteau télégraphique. Sur ce, bonne nuit, fruitier, éveillez-moi de grand matin, s'il vous plaît. » Un quart d'heure plus tard, tout était silencieux dans la fruitière. Hercule, debout près du foyer, regardait d'un air sombre et absorbé les tisons qui se consumaient lentement. Marc dormait. Il dormit longtemps, d'un sommeil profond et sans rêve, au milieu duquel il eut tout à coup la perception vague de quelque chose qui ressemblait à un gémissement. « Attendez, je viens » murmura-t-il d'une voix somnolente. Puis il se retourna sur sa dure planche et s'endormit de nouveau. Cependant, un indéfinissable malaise l'éveilla bientôt tout à fait. Il ouvrit les yeux. Tout était ténèbre dans la grande pièce, sauf auprès du foyer, d'où s'élevait encore une flamme rouge. Hercule était assis sur le rebord de pierre, tenant dans ses bras un enfant qu'il berçait doucement. « Qu'est-ce ? Qu'y a-t-il ? » s'écria Marc en se dressant avec son impétuosité ordinaire, mais sans bien savoir encore où il se trouvait. « Il n'y a rien du tout. Bertie a eu peur là-haut et il s'est mis à pleurer. Ne l'avez-vous pas entendu ? Je suis allé le prendre dans son lit et, à présent, je tâche de le rendormir. Et Suzette ? Elle n'a pas bougé. « Sois sage, Bertie, » dit Marc par acquis de conscience et pour montrer la part qu'il prenait à l'incident. Puis il s'allongea de nouveau et se serra plus étroitement dans sa couverture car la fraîcheur de la nuit le faisait frissonner. Mais ses yeux restèrent fixés sur le petit groupe qui illuminait la flamme vacillante. L'enfant entourait de ses bras le cou d'Hercule et sa tête reposait doucement sur l'épaule de son robuste protecteur. Il ne dormait pas encore, mais il était aussi tranquille qu'un petit oiseau. Ses yeux tout grands ouverts considéraient d'un air étonné le sombre visage qui se penchait tout près du sien.
« Pourquoi tu me regardes ainsi ? »
fit-il un peu craintif, car les yeux tristes du jeune homme s'attachaient sur lui avec une étrange intensité. « Tu ressembles à ta mère, » dit Hercule d'une voix sourde et basse. Comme il inclinait la tête, Marc ne pouvait distinguer sa figure, mais Bertie s'écria tout à coup
« Il tombe de l'eau sur ma main !»
Puis, après un moment de silence, il ajouta doucement
« Pourquoi tu pleures ?»
Marc n'y put plus tenir. Dans un élan de compassion, il jeta loin de lui la couverture et accourut près d'Hercule. Celui-ci avait déjà relevé la tête par un mouvement de fierté et de pudeur instinctive. Cet homme fort ne voulait pas qu'on le vît pleurer, mais ses traits contractés exprimaient la plus poignante douleur. «
Ami, » dit Marc avec chaleur en lui mettant la main sur l'épaule, « dites-moi la cause de votre chagrin. Vous croyez que je n'y puis rien, mais je suis sûr, moi, que j'y pourrais quelque chose. »
« Ami, » répéta Hercule d'un ton amer. « Quand vous m'aurez entendu, je pense bien que vous ne m'appellerez plus ami. Est-ce que vous voudriez tendre la main à un incendiaire ?» Marc tressaillit légèrement, mais ne retira pas sa main posée sur l'épaule du jeune fruitier. « Après ce mot, vous m'en devez l'explication, » dit-il tranquillement. « Alors, je saurai ce que j'ai à faire. » En même temps, il s'assit au bord du foyer et resta silencieux, comme attendant ce qu'Hercule allait dire. Celui-ci prit tout à coup son parti et, se tournant vers Marc, il le regarda droit en face. « Par Notre-Dame de Fribourg, à qui j'ai fait un vœu, » dit-il solennellement, « tout ce que je vais vous raconter est la pure vérité. Écoutez-moi maintenant et donnez-moi un conseil si vous pouvez. Le père de ce petit... » Il désignait l'enfant qui venait de s'endormir sur son épaule et dont on entendait la respiration égale et douce. « Le père de ce petit était mon maître, un rude maître, allez. Il m'a donné plus de coups que de morceaux de pain. Mais la maîtresse était bonne et douce comme une sainte vierge. À cause d'elle, je restais. Si l'envie de partir, de me sauver bien loin, me prenait trop fort, elle n'avait qu'à me dire « Mon cher garçon !» et j'étais comme ensorcelé. Vous savez, je n'avais connu ni père ni mère, et personne d'autre que la maîtresse ne m'appelait son cher garçon. En été, on m'envoyait au chalet avec les fromagers. En hiver, je fendais du bois et je travaillais dans la maison. J'avais 16 ans, j'étais fort et fier aussi. Je ne voulais plus être battu comme un chien. À Confesse, monsieur le curé me recommandait de m'humilier, que Notre Seigneur en avait vu bien d'autres.
mais moi, je ne voulais pas avoir des soufflets parce que le maître avait mal dormi ou parce qu'il pleuvait quand on allait faire la moisson. La maîtresse n'osait rien dire. Elle craignait son mari comme le feu, la pauvre, mais Suzy était brave. Elle se jetait dans les jambes de son père quand il s'avançait contre moi d'un air furieux et elle criait « Méchant papa, pas battre mon fer !» Et si on essayait de lui dire que je n'étais pas son frère, elle se mettait en colère tout de bon. Je l'aimais bien, cette petite, et pourtant, aujourd'hui, je ne l'ai pas reconnue. « Ce n'est pas étonnant, » dit Marc. « Elle n'était guère qu'un bébé, alors, et c'est maintenant une petite femme raisonnable. D'ailleurs, elle non plus ne vous a pas reconnue. »« En êtes-vous sûr ?» fit Hercule vivement. Elle me regardait d'un air tout drôle. Mais j'ai changé, moi aussi. J'étais alors un garçon assez gai et grand chanteur. Baptiste Morellaz m'avait appris un tas de chansons quand nous étions à la montagne et je les disais pour me consoler des avanies du maître. Voilà qu'un soir d'hiver, un homme entre dans notre cour et commence une complainte que je n'avais jamais entendue. C'était le dragon du chevalier Georges. Il la chante jusqu'au bout et puis il demande un morceau de pain et à coucher. Le maître était mal viré ce jour-là à cause de notre meilleure vache qui avait tari. Il répond à l'homme que nous ne logeons pas les vagabonds et que s'il ne décampe pas au plus vite, on mettra le chien à ses trousses. Nous avions justement un mauvais petit raton qui ne demandait pas mieux que de marquer ses dents dans une paire de jambes. L'homme ne bougeait pas. Il regardait en l'air en marmottant quelque chose et je vis bien qu'il n'avait pas tout son bon esprit. Alors le maître s'impatiente et se met à crier « File ton nœud, rôdeur ! Xi, xi, mords-le, finot, mords-le » C'était lâche car l'homme était vieux et il n'avait qu'un bras. Moi, je ne pouvais pas voir ça. Comme le chien allait se lancer sur lui, j'empoigne la méchante bête par son collier et je la flanque les quatre pattes en l'air sur un tas de bois. Puis je tire de ma poche le pain de mon souper et je le donne au manchot. « Allez, pauvre homme, que je lui dis, allez chercher un logis chez de meilleurs chrétiens. » Je n'avais pas seulement fini de parler que le maître était sur moi avec des yeux furieux comme une bête sauvage. Je crois qu'il m'aurait émietté si le valet ne m'avait tiré de ses mains. Quand il me lâcha, j'avais la figure pleine de sang et j'allais me laver à la fontaine. Je ne voulais pas rentrer chez mon maître, c'est pourquoi je courus jusqu'à un hangar qui était au bout du champ et là je trouvai le manchot. Il me soigna bien, pauvre vieux. Il me mit des compresses de neige sur le front et disait en serrant les dents « Les méchants seront punis, les méchants seront punis !» J'avais bien mal à la tête, mais je lui demandai tout de même de m'apprendre sa complainte et il me la chanta plusieurs fois. Ensuite, quand la lune fut levée, il voulut partir, mais il me laissa en souvenir une bague à pierre rouge qu'il avait au doigt. « Si tu as besoin d'argent, tu la vendras », qu'il me dit. Ce n'était que du laiton, mais l'intention valait de l'or. Sur la porte du hangar, il se retourna encore une fois et leva le doigt. « Les méchants seront punis !» Et puis, je ne le vis plus. Une heure après, je pense, en regardant dehors, je vois la neige toute rouge. Je me dépêche de sortir et j'aperçois une grande flamme qui tirait la langue par une lucarne de la grange. Je cours à travers le champ pour aller avertir les gens de la maison, mais juste comme je passais le long de la muraille en feu, quelqu'un me tombe dessus et me renverse dans la neige par un grand coup de poing. C'était mon maître qui hurlait comme un fou. « Ah, vaurien, canaille, incendiaire, c'est comme ça que tu me récompenses de t'avoir nourri. Allez me chercher les gendarmes, voici les allumettes tout à côté de lui. » Et il ramassa par terre une petite boîte que je n'avais pas vue. Ici, Hercule fit une pause pour essuyer son front trempé de sueur. Le souvenir poignant de cette fatale nuit le serrait à la gorge et ce fut d'une voix saccadée qu'il reprit. Des gens arrivaient de tous côtés, mais je ne les voyais pas bien, j'avais comme perdu l'esprit. Quelqu'un m'emmena à la maison et me laissa dans la cuisine où la maîtresse se tenait toute seule, blanche comme une figure de cire. Je lui criai « Ce n'est pas moi, je vous jure !» Mais elle me dit « Puisque tu avais les allumettes, personne ne te croira et le juge te mettra en prison. Vois-tu, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de te sauver. Le monde est grand, sauve-toi, sauve-toi. » En même temps, elle passait derrière moi en tenant de grands ciseaux, et je sentis alors qu'on m'avait attaché les poignets avec une petite corde. Je ne m'en étais pas encore aperçu. Elle me délia, puis elle courut dans la chambre et prit quelque chose dans le bureau. « Voilà tes papiers pour qu'on ne te fasse pas des misères si tu vas dans un autre canton, et voici un peu d'argent. » Elle me mit ça dans ma poche, et moi, je ne pouvais ni bouger ni parler. Elle me poussa vers la porte de derrière en disant « Passe par là et prends la route de Fribourg. Tous nos gens sont au feu, on ne te verra pas. » Alors, elle me prit la tête à deux mains et m'embrassa au milieu du front, puis elle ferma la porte. J'aurais dû rester, car celui qui se sauve a l'air d'avoir fait le mal, mais j'avais perdu l'esprit. Je me mis à courir comme un fou, puis à marcher sans m'arrêter jusqu'au matin. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait pendant cette journée. La maîtresse m'avait dit d'aller à Fribourg, j'allais à Fribourg. Quand j'y arrivais, c'était vers le soir. J'y vis une grande église ouverte et je me dis « Peut-être qu'il est permis d'entrer là pour se reposer. » Il n'y avait presque personne, mais l'autel de la Vierge était tout illuminé et l'idée me vint de faire un vœu. Je promis à la Reine des Cieux de ne pas boire de vin et à son fils de lui apporter trois grands cierges s'il voulait se donner un peu de peine pour faire découvrir celui qui avait mis le feu à la grange. C'était une drôle d'idée, fit Hercule en s'interrompant. Qu'est-ce que ça peut bien faire à la Vierge que je boive du vin ou non ? Mais je pensais qu'elle s'intéresserait à moi si je lui promettais quelque chose. Il paraît qu'elle a eu d'autres besognes jusqu'à présent. Le lendemain matin, en me promenant par les rues, j'arrivai à la gare, et comme je regardais les gens qui amenaient des bagages ou qui prenaient des billets, « Tiens, que je me dis, tu as aussi de l'argent. » Mais où aller ? Je ne connaissais personne au monde, alors je pensais qu'il fallait tirer au sort. Je fis 10 pas bien comptés le long de la muraille et le premier mot que je lus sur une grande pancarte jaune, c'était « Neuchâtel ». Je pris donc un billet pour Neuchâtel et pendant le voyage, je trouvai en wagon un vieux fromager qui venait aussi de Gruyère, où il avait été en vacances, qu'il me dit. Il cherchait un jeune domestique de bonne volonté pour lui aider dans sa fruitière de montagne, celle-ci, monsieur, où je suis resté depuis. Le vieux fromager est mort et les paysans de l'association m'ont demandé de le remplacer. » Ici, Hercule s'arrêta et Marc, se levant avec impétuosité, lui prit la main qu'il serra dans les siennes. « Pauvre garçon, s'écria-t-il, comme vous avez souffert !»« Oui, dit le jeune fruitier, et ses traits, détendus un instant, redevinrent plus sombres. J'ai souffert de la honte sans l'avoir mérité. Depuis plus de 4 ans, je me cache. Si je rencontre des étrangers, je m'ôte de leur chemin, car il me semble toujours que quelqu'un va me reconnaître et crier « Regardez-le, c'est Hercule de chez Cotin, celui qui a mis le feu à la grange. Et vous, qui me demandiez de faire mon portrait » ajouta-t-il avec un sourire amer. « Je comprends maintenant votre répugnance, dit Marc, mais une chose me paraît évidente, c'est qu'on ne vous a pas cherché. Car on vous aurait trouvé, soyez-en sûr. Notre Suisse est trop petite, les fils télégraphiques et les chemins de fer trop nombreux pour qu'un individu signalé puisse demeurer 4 ans sans être inquiété en aucune manière. Et, j'y pense, n'avez-vous pas été appelé au service militaire ? Oui, j'ai fait mon école de recrue l'année dernière à Colombiers. Et croyez-vous que vous auriez passé ainsi comme une lettre à la poste si vous aviez été recherché par la police fribourgeoise ou condamné par défaut ? Non, il me paraît clair qu'il n'y a pas eu de déposition contre vous ou que votre innocence a été prouvée. J'écrirai à un de mes amis, membre du Grand Conseil de Fribourg, et sans vous nommer, je tâcherai d'obtenir quelques informations. » Hercule appuya son front sur sa main et resta un moment silencieux. « J'aurais dû penser à tout ça, » dit-il enfin. « Mais, voyez-vous, ma seule idée était de rester caché ici et je n'aurais pas même osé écrire à la maîtresse tant j'avais peur de me faire prendre. Et puis, quand la justice ne s'en serait pas mêlée, » ajouta-t-il tristement, « mon bon renom est perdu tout de même et jamais je ne pourrai retourner dans mon village. »« Qui sait, » dit Marc. « En attendant, vous voyez que je puis vous être bon à quelque chose. » Ne me remerciez pas, fit-il vivement, car je travaille pour ma paroisse. Quand vous serez un homme réhabilité, vous n'aurez plus de raison pour me refuser votre portrait, n'est-ce pas ?
La lueur grise de l'aube, pénétrante à travers les vitres ternies, luttait avec la faible clarté du feu mourant.
« Couchez-vous un peu, dit Marc au jeune fruitier. Vous n'avez pas dormi de toute la nuit. »
Hercule secoua la tête.
« Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, dit-il, mais je vais reporter ce petit là-haut. Il dormira mieux dans son lit que sur mes bras. »
Marc ne se sentait plus aucune velléité de sommeil. Il sortit pour respirer la fraîcheur matinale de l'air et pour calmer un peu ses esprits excités. Il fit quelques pas dans la cour, mais trouvant bientôt ce promenoir trop étroit, il se dirigea vers la butte qui dominait le chalet. Là, il s'assit sur une pierre et attendit le lever du soleil. Une lumière blonde emplissait déjà l'Orient, mais la vallée dormait encore dans l'ombre violette. Au ciel, la lune pâlissait et s'évanouissait comme un flocon d'argent. Une teinte rose d'une douceur infinie illuminait déjà la crête des vieux rochers gris, et du côté où le soleil allait paraître, des nuages empourprés s'assemblaient comme pour saluer sa venue. Enfin, il monta et tout s'éveilla. Les vives étincelles de la rosée scintillèrent de toutes parts, le velouté de la mousse, les mille nuances des herbes et des feuillages, l'éclatant rubis des fraises et des groseilles sauvages, les fines arabesques des lichens blancs sur les vieux troncs, tous ces détails charmants surgirent du triste linceul gris dont l'ombre les avait couverts.
Marc resta longtemps sur la butte, rassasiant ses yeux de ce spectacle auquel il n'était point accoutumé, car à la ville, on se lève rarement avec le soleil. Cependant, la prosaïque pensée du déjeuner finit par le tirer de son ravissement artistique.
« Que donnerais-je à mes oiseaux ce matin ? » se demandait-il en redescendant vers le chalet. « Plus de chocolat, plus de pain et pas encore de lait. Nous en serons réduits à faire bouillir les courroies de mon sac comme des naufragés. Mais que se passe-t-il donc ici ? » fit-il en s'arrêtant sur le seuil de la fruitière. La petite Suzette était là, en jupon court, pieds nus sur les dalles et ses cheveux blonds emmêlés tombant sur ses rondes épaules. Elle tenait à la main un petit livre noir et l'agitait d'un air fort excité.
« Son nom est là-dessus, » disait-elle d'un ton moitié colère, moitié suppliant. « Dites-moi où il est, s'il vous plaît, dites-moi où il est !»
Puis, apercevant Marc, elle courut à lui comme pour gagner un défenseur à sa cause.
« Ce livre est à Hercule, » cria-t-elle, « j'ai lu son nom dedans. Je sais lire, moi !»
En même temps, elle ouvrait le petit volume et indiquait du doigt au jeune homme ces deux mots « Hercule Raspe » écrits sur la première page en gros caractères moulés.
« Où avez-vous pris cela, petite indiscrète ?» dit Marc d'un air grave, en feuilletant le livre qui était un paroissien bien relié en maroquin noir.
« Sur la table là-haut, je voulais seulement essayer de lire un peu, » répondit-elle d'un air contrit.
Marc Aubert jeta un regard au jeune fruitier. Il se tenait appuyé contre la muraille, pâle et visiblement ému.
« S'il vous plaît, insista la fillette, dites-moi où est Hercule. J'ai une lettre pour lui. »«
Suzy, dit-il d'une voix un peu saccadée, est-ce que tu ne me reconnais pas ?»
Elle s'arrêta devant lui, les yeux en l'air, stupéfaite.
« Ce n'est pas toi, » fit-elle lentement.
« Mais oui, c'est moi, ma Suzy, » répondit-il en l'enlevant dans ses bras avec une subite véhémence.
« Ne te rappelles-tu pas que je te rapportais des poignées de clochettes bleues quand je revenais de la montagne et que je t'avais donné une fois une petite perdrix ?»«
Oui, oui !» s'écria-t-elle avec joie. « Alors, puisque c'est toi, tiens !»
Et plongeant la main dans son petit corsage de futaine, elle en tira une enveloppe toute froissée.
« C'est mère qui t'envoie cela, » dit-elle. « Elle avait bien recommandé à monsieur le curé de te faire chercher partout, et à moi aussi, et à Bertie aussi, quand il serait grand, jusqu'à ce qu'on te retrouve. « Comme je t'ai vite trouvé !» exclama-t-elle. « Et comme la cousine Madeleine est gentille d'avoir été si méchante, sans cela, je ne me serais pas sauvée, et nous ne serions jamais venus ici. »
Cependant, Hercule venait de déchirer l'enveloppe. Marc, pensant qu'il préférait rester seul, envoya l'enfant achever sa toilette et sortit lui-même, très surpris de ce nouvel incident. « Est-ce un dénouement ou une nouvelle complication ?» se demandait-il tout songeur. « J'en ai la fièvre, ma parole. Mais que ce garçon lit donc sa lettre lentement, je crois qu'il l'épelle, puis qu'il la recommence à rebours. Et pendant ce temps, moi, je me dessèche. » « Tenez, » dit Hercule en s'avançant sur le seuil. Sa voix était étrangement altérée et sa main tremblait. Marc saisit avec empressement la feuille ouverte qui lui était tendue et lut ce qui suit. « Mon cher Hercule, je m'en vas mourir. Monsieur le curé, qui me confesse, pense que nous t'avons fait bien du tort et qu'il faut le réparer si on peut. C'est le manchot qui a mis le feu à la grange. Tu sais, l'homme qui avait chanté dans notre cour le même soir et que Cotin avait chassé. On l'a arrêté 2 jours après et il n'a rien caché. La boîte d'allumettes qu'on avait trouvée sur la neige était la sienne. Mais tu étais déjà bien loin et personne ne pouvait dire de quel côté tu avais tourné. Après toi, nous n'avons eu que de la malchance. Toutes nos vaches ont péri, Cotin est tombé malade et mon petit Hubert, qui est né 6 mois plus tard, est tout chétif et tout moindre. Lui et Suzy, quand je serai parti, s'en iront aux montagnes de Neuchâtel où j'ai une cousine. C'est aussi un pays de fromagers, à ce qu'on dit. Je leur ai bien recommandé de t'y chercher, car j'ai idée que tu n'es pas allé très loin. Hercule, si cette lettre te trouve et que tu vois mes enfants, n'oublie pas que tu étais comme leur frère. Si jamais tu reviens au pays, monsieur le curé t'expliquera toute la chose mieux que moi. Je t'en prie de tout mon cœur, pardonne-nous. Ta mère d'autrefois, Jeanne Cotin. » L'écriture irrégulière et tremblante laissait deviner la faiblesse de la main qui avait tracé ces mots. Marc alors se tourna vers Hercule, qui se tenait appuyé contre le linteau de la porte, la figure cachée dans ses mains. « Laissez-moi vous féliciter !» s'écria chaleureusement le jeune peintre. « Vos années de malheur sont passées comme un mauvais rêve pour ne plus revenir. » Hercule releva la tête avec ce geste fier qui allait si bien à ses traits énergiques. « À présent, je peux regarder chacun en face, je n'ai plus honte de mon nom, » dit-il avec un accent tout nouveau. Il se redressa comme un jeune sapin qui, longtemps courbé sous le poids de la neige, secoue enfin cet accablant fardeau. « Les enfants sont à moi, » continua-t-il. « Vous avez bien dit, maîtresse, je serai leur frère. » Suzette descendait en ce moment l'escalier, tenant Bertie par la main, et il fallut songer à leur déjeuner. Pendant que le fruitier ranimait un peu de braise, Suzette obtint de mettre le couvert. « Je savais bien que c'était la colombe à Hercule » fit-elle d'un petit ton triomphant en prenant sur le dressoir la fameuse tasse aux éclatantes enluminures. « Ce n'est pas la même, » dit le jeune fruitier. « Quand je suis parti de chez vous, par cette nuit de neige et d'incendie, je n'avais guère le temps de penser à ça. Mais j'en ai acheté ici une toute pareille, en souvenir du vieux temps. »« Eh bien, est-ce que ce n'est pas ta tasse puisque tu l'as achetée ?» dit Suzette en secouant la tête d'un air de remontrance. « Je disais bien que je la reconnaissais, mais le joli monsieur ne voulait pas me croire. »« Oh, logique féminine !» s'écria Marc en pinçant la joue ronde de la fillette. « Mais voici nos laitiers qui pointent à l'horizon. Nous pourrons bientôt déjeuner. » Jean Guignard arriva le premier, puis le jovial domestique de Madame Rosine entra à son tour. Tôt après, le terrible Bourcard parut aussi, maugréant sur son rhumatisme qui n'avait quitté l'épaule gauche que pour aller se loger dans la droite. « Je peux vous indiquer un fameux remède, » dit le gros réjoui en versant son lait dans le seau de la balance. « Frictionnez-vous avec une pive jusqu'à ce qu'elle prenne feu. Mais il faut frotter ferme, vous comprenez ?»« Je t'apprendrai à te moquer d'un homme de mon âge, mauvais farceur !» dit le vieux fermier en colère. « Comment se moquer une tant bonne recette ?» Hercule fit diversion à l'incident. « Paysan, » dit-il en s'avançant, « comme il est convenu qu'on doit s'avertir au moins 6 mois à l'avance, vous me chercherez un remplaçant pour le printemps prochain. » À cette annonce laconique, une certaine stupéfaction se peignit sur le visage des trois laitiers.
« Comment ça ? » dit Bourcard de son ton le plus colérique. « Je voudrais bien voir que tu nous plantes là. Tu nous conviens, et s'il te faut 100 francs de plus, on te les donnera. »
« Oh, oh !» fit le prudent Guignard en s'interposant.
« 100 francs, c'est gros. L'association n'a pas encore dit oui. Comme ça, vous jambleriez de partir, Hercule. C'est une idée qui vous est venue cette nuit ?»
En même temps, il jetait à Marc un regard qui signifiait « Vous y êtes bien pour quelque chose. »
« J'ai dit tout ce que j'avais à dire, » répondit Hercule. « Au printemps, je retourne en Gruyère. Ainsi, vous ferez bien de chercher quelqu'un. »
« Un héritage, quoi ?» dit le joyeux domestique en lançant au fruitier une bourrade amicale. « Si tu pouvais me prêter 10 francs à fond perdu, ça me rendrait service. »
« Il paraît bien qu'il était dans les fromages, ce joli freluquet, » grommelait Jean Guignard en sortant. « Sans cela, est-ce qu'il nous escamoterait notre fruitier ?»«
Attendez donc, » dit Marc au moment où le valet de Madame Rosine s'éloignait à son tour. « Dites-moi, je vous prie, s'il y a un dépôt de poste dans le voisinage. »«
C'est nous qui avons la boîte. Je prendrai vos lettres si vous voulez. »«
Volontiers, merci. » Mais je voudrais ajouter encore 2 mots avant de fermer l'enveloppe. » Et tirant de son sac l'album qui lui servait de buvard, Marc griffonna le post-scriptum suivant.
« Ma rencontre avec Messire Taureau n'était qu'une préface, s'il te plaît, et je suis tombé d'aventure en aventure. C'est toute une histoire que je te raconterai à mon retour. J'en ferai un tableau. Toi, si tu veux, tu en feras une nouvelle. »
Marc Aubert.